nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Bonjour et bienvenue dans Belles Traces. Aujourd'hui, à mon micro, un esthète d'un sport qui est pratiqué par plus de 90 millions de personnes à travers le monde. Oui, j'ai cherché quand même. Un jeu qui peut rendre complètement fou ou folle, tant il est complexe à pratiquer. Alors ça, les non-joueurs, ils ne peuvent pas le comprendre tant qu'ils n'ont pas essayé. Et moi, je peux témoigner. Car c'est bien du golf que je parle. Et le champion que je reçois aujourd'hui a gagné de nombreux tournois et est qualifié de métronome. J'ai lu ça par ses pairs. 25 années sur le circuit pro, 25 ou 26, on va lui demander. Et il n'a toujours pas lâché les clubs. Même si à ses débuts, il était plutôt sur un terrain rectangulaire, avec de la pelouse aussi, pour jouer avec une balle ou un ballon. Je suis très heureuse de recevoir au micro de Beltrace, monsieur Raphaël Jacquelin.
Salut Flo.
Salut. Merci de me recevoir ici, chez toi.
Plaisir.
En Suisse, donc.
En Suisse, j'aime bien ce petit mot.
Oui.
Sympa.
C'est sympa.
Bon, ouais, franchement, pas sympa. 90 millions.
Oui, c'est ce que j'ai cherché.
Je ne savais pas.
C'est énorme.
C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, mais tout le monde joue au golf.
Oui, c'est ça en fait.
Dans tous les domaines.
Pas forcément bien, mais...
Non, bah, comme tu l'as dit, mais...
Oui.
Mais tout le monde joue au golf. J'ai rencontré des personnes dans tous les domaines et j'avoue qu'il y a beaucoup de golfeurs.
Oui.
Voilà. Ouais. Donc je crois que c'est un... Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça réunit pas mal de monde.
Ben, je pense que c'est accessible aussi à tous les âges. Et en fait, ce qui énerve et ce qui, du coup, attire aussi les gens, c'est que sur un coup, on peut faire un coup génial, ouais. Presque mieux qu'un pro.
On peut rivaliser avec un pro.
Sur un coup.
Oui, même sur... Enfin,
oui, enfin, souvent sur un coup. Pas, hein.
Sur un coup, c'est clair qu'on peut faire mieux qu'un pro.
Voilà.
Ce qui est rare.
Et du coup, en fait, on s'accroche un peu à cette idée de dire, mais on va pouvoir le refaire.
Il suffit d'un bon coup dans une journée pour revenir le lendemain.
Ouais.
C'est ce que tout le monde dit, en tout cas, tous les passionnés de golf. Donc, et je les crois. Quand moi j'ai débuté le golf, donc c'était quoi, 89, donc oui, t'as dit 25, oui. 26 ans de oui. Pro, oui, moi j'ai commencé juillet 89
en pro ou le golf?
Non, le golf,
le golf.
Premier,
parce que
premier
tu t'étais blessé en foot, c'est
alors
ça?
Oui, c'est vrai que tu as parlé, oui. De terrain rectangulaire.
Oui.
Foot, tennis, mais foot à la base.
Oui.
Foot depuis l'âge de 5 ans dans la région de Lyon, parce que moi je suis né à Lyon. Passionné de foot, j'aurais aimé rentrer au Centre Vendôme à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, c'était mon rêve d'enfant. J'ai joué en cadet national à Villefranche-sur-Saône, une petite ville à côté de Lyon, et j'allais rentrer en sport-études à Vendôme, donc en deuxième année cadet, ou en première année cadet, je ne sais plus, et je me suis blessé au genou, enfin blessé, deux tendinites aux deux genoux en même temps, les rotules.
D'accord.
Croissance un peu tardive. Les cuisses, même.
Oui.
Qui grossissent parce que, enfin, on avait beaucoup trop d'entraînements. J'avais 4 entraînements par semaine et match dimanche.
Oui.
À l'âge de. J'avais 12-13 ans.
Donc, ouais, c'était pas beaucoup. Encore.
Et donc, croissance un peu tardive dans mon cas. Les cuisses trop grosses, les tendons qui lâchent. Et je me rappelle, enfin, une anecdote de dingue, c'est qu'après les matchs, j'avais des emplâtres d'aide direct le soir en rentrant aux deux genoux. Et le lendemain, j'allais à l'école avec des béquilles, 13 ans.
Ah oui, là, non.
Et le pire, moi, je me rappelle toujours, avant les matchs, ce dimanche, donc échauffement avec les autres, première mi-temps, et moi, je trottinais à la mi-temps autour du terrain pour ne pas rentrer au vestiaire. Parce que si je m'arrêtais 10 minutes, je ne repartais pas.
C'est dingue.
Avec ultrason sur les genoux avant de démarrer.
Ah ouais, non, mais là,
ans.
Oui.
Donc là, le doc du club, il a dit, bon... Il va falloir qu'on arrête parce que sinon on va l'opérer. Et, enfin,
oui.
À 13 ans,
oui.
Ça ne sert à rien. Par contre, s'il arrête, la croissance va reprendre le dessus et ça ira. Donc, autant te dire qu'une grosse déception à ce moment-là pour moi, qui voulait absolument. Et je rentrais au Centre Vendôme. Donc, arrêt du foot à l'âge de 13 ans. Un peu de tennis derrière, mais bon, même problème. Parce que j'ai fait les tournois directs parce que je suis incapable de faire un sport sans aller faire une compète. Donc, des petits tournois où j'étais 15-1, 15-2. Mais bon, problème de genou direct, tennis encore pire.
En fait, c'est courir, quoi, les déplacements.
Ouais, alors courir, ouais, je cours moins maintenant.
Oui, oui, bah oui, oui, c'est ça.
Mais oui, j'adore, puisqu'on a encore joué au paddle avec Guy, là, Guy Forget, avant-hier, et il me dit, mais où est-ce que tu trouves ce jus, quoi? Parce que c'est vrai que j'ai du jus. Mmh. Quand je cours après une balle, j'ai du jus. Donc bref, je reviens sur le tennis, arrêt du tennis, pareil. Et habitant dans la région de Lyon, à côté de chez mes parents, il y a un petit golf compact 9 trous qui s'est construit. Donc là, on revient en juillet 89. Et je découvre ce golf en allant faire un tour de bicross. C'était l'époque
les vélos qu'on appelle du BMX maintenant.
BMX, voilà. Je faisais du BMX, il y avait un petit terrain de bicross. Et je fais mon tour de bicross. Et sur le retour, je vois marquer un panneau golf. Et pour moi, c'était un mini-golf. Je ne connaissais pas du tout le golf. Je dis, bon, golf, je vais voir. Là, je tombe sur... Alors, le clubhouse, c'était une cabane. Franchement, une petite cabane. Il y avait un grand espace vers le golf, que je ne connaissais pas. Et là, le mec, le directeur des lieux, je me rappelais, il s'appelait le golf des rivières. Avec Thierry Vessière, son directeur, je me rappelle encore des noms. Il me dit, tu veux essayer? Comme ça, il n'y a personne. Je dis, bon, ouais, pourquoi pas, je pose mon bicross. Et là, il m'a pris pendant 2 heures d'initiation. Sympa.
Ah ouais, 2 heures pour la première fois, c'est quand même...
C'est beaucoup, hein.
Oui, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, et surtout qu'on a commencé, enfin, il a commencé à me mettre sur le putting green, chose qu'on fait très peu.
Oui.
Enfin, ce que tu vois maintenant...
Oui, tout est sur le swing, en fait.
Voilà,
oui.
Donc putting, chipping, coup à 50 mètres, et ensuite sur le practice. Pardon.
C'est pas grave.
2 heures. Et je me rappellerai toujours de mon premier coup de fersette au practice où j'ai fait 100 mètres. Première balle. C'est touché au milieu de la face.
Non.
Bon, magnifique. Bon, pas les autres. Pardon. Et de là, après ces 2 heures, je rentre avec mon micros à la maison et je dis, bon, j'ai trouvé un nouveau sport. Voilà comment c'est parti.
C'est fou, ça.
Voilà comment c'est parti en juillet 89. Le lendemain.
Merci, merci quand même la petite barrière, la petite carte
petit
au golf.
Le golf, hein, clé en vert, panneau blanc. Le lendemain, mon père, en bon commercial, il dit, bon, on n'a pas les moyens de t'inscrire au golf.
Oui.
Il me dit, je vais aller voir le directeur. Il est allé négocier avec le directeur du golf, donc ce fameux Thierry Vessière, mon abonnement à la saison contre... Enfin, mon travail, je dirais, au golf, si je pouvais aider au golf à travailler tous les matins pendant tout l'été.
D'accord.
Juillet-août. Et donc, le mec a dit oui. Ouais. C'est l'époque où tu pouvais faire des choses comme ça.
Oui.
Maintenant, je pense que tu ne peux plus. Mais... Donc, j'ai bossé de 7h à 13h de juillet et août 89.
Ouais.
Et j'ai joué au golf tous les après-midi. Voilà comment j'ai débuté le golf. Comme ça, voilà, on a le plan de démarrage de ma carrière. Et voilà, c'est parti comme ça. Je n'ai jamais arrêté depuis.
Et qu'est-ce qui t'a plu? Tu te rappelles de ce qui t'a tout de suite plu dans le... Alors, c'est... encore une fois, le point commun, c'est quand même la balle. Hein, parce que la balle, le ballon de foot, le tennis.
Je cours beaucoup moins.
Le tennis et la petite balle blanche, là, maintenant.
C'est le toucher. Moi, j'adore tout ce qui est touché avec la balle. Donc, au tennis, c'était le toucher avec la raquette. Au foot, c'était le toucher avec le pied.
Ouais.
Là, c'était le premier coup de fersette que j'ai tapé. Je me rappelle toujours, toi, quand on la centre au milieu de la face, on a l'impression qu'on tape dans rien et qu'elle est bien prise, toi, bien centrée.
Ouais, je n'ai pas vraiment eu ce sentiment-là, moi. Mais...
mais c'est le toucher. Ouais. Et ce toucher-là, je dis, ouais, j'y retourne parce que j'adore ça.
Ouais.
Et voilà. Et c'est pour ça que quand je m'entraîne, depuis, je suis toujours en train de rechercher le meilleur toucher parce que c'est ce qui me botte, en fait.
Ouais.
Alors, la compète, bien évidemment,
on
va y revenir, mais on va avancer là-dessus, mais... J'adore le toucher et tant que j'ai pas un bon toucher, je suis pas content.
Ouais.
Voilà. En gros, c'était ça.
Ouais. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que à la fois, je trouve qu'en golf, tu as quand même un swing qui est souvent le même. Alors,
l'idée c'est de faire le même.
Voilà, l'idée c'est de faire le même, même si tiens, je vais faire du fade ou du. Voilà. Bon, moi, je dis non, mais moi, je fais ce que je peux, mais vous, c'est un autre niveau. Mais en même temps, les situations sont quand même tout le temps différentes, puisque t'as jamais les pieds vraiment à plat, à part effectivement sur un tapis de practice, mais finalement sur un parcours, c'est rare, sur les départs peut-être.
Oui, il y a plein de départs.
Mais t'as les pieds, mais ok, ça c'est ok, c'est la même chose. Sauf que les objectifs, ils sont différents en fonction du parcours, à part si c'est des parcours droits, longs, mais
oui,
t'as
non,
toujours
mais t'as
au début...
Même situation.
Même situation, la même météo, voilà, c'est pas les mêmes coups, tu changes de club, après sur le green, on parlait du putting tout à l'heure, c'est aussi la même chose. En fait, il faut sans arrêt... à la fois faire les mêmes choses, mais s'adapter.
Il faut s'adapter en permanence.
Oui.
Ça, c'est ce qui est difficile, et à mon avis, c'est ce qui rend les sportifs, en tout cas, qui jouent au golf, qui ont découvert ce sport, parce qu'évidemment, on en est plein, hein, comme
oui.
toi. Ils adorent ça parce que c'est un truc à part. En tout cas, ils le qualifient à part. Moi, je les écoute parce que ils me disent que votre sport, c'est un truc de dingue. Oui. Bon, tu l'as dit aussi dans ton, dans ton petit mot. Et c'est vrai, c'est à part. Parce qu'il n'y a pas le côté physique, mais tu vois la plupart des sportifs qui ressortent après, qui après 4 heures de jeu ou un parcours de 18 trous, ils sont morts.
Ah mais oui, non mais monsieur...
Parce que c'est un effort physique complètement différent.
Et mental, sur la concentration en fait.
Il faut s'adapter, comme tu le dis, sur chaque coup. C'est jamais le même coup, mais il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent, la force du vent. La force du vent, comment tu fais?
Oui.
La force, tu apprends à, entre guillemets, maîtriser la force du vent et... Mais c'est tout du... Bon, c'est tout au nez. Enfin, c'est à force d'entraînement, mais c'est tout au nez. Parce que la force du vent, ça dépend tellement comment tu prends la balle. Et enfin, comment la balle tourne en l'air, c'est ce qui fait la... aussi ce qui donne la différence de distance. Et donc, nous, on s'adapte à ça. Et à la fois, on essaye d'être très rigoureux et très précis dans l'entraînement et dans la technique du swing. Mais à la fois, ça reste un jeu tellement stratégique avec des... des conditions complètement différentes, que c'est complètement contradictoire de vouloir mettre beaucoup de détails dans la technique, parce que maintenant, ce qui se fait dans le golf, c'est tous les appareils, la technologie qu'on peut avoir.
Qui mesure tout, les angles.
À degré près, alors que non. Enfin, oui et non. C'est ça qui est contradictoire et ce qui rend ce jeu, enfin ce sport, passionnant, parce qu'on essaye de faire quelque chose de parfait qui n'existe pas, et à la fois, ça reste aléatoire, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Oui.
Voilà. Et c'est ce qui est mentalement difficile
oui, c'est
à
sûr.
Gérer.
Oui, oui, oui.
C'est le côté
oui,
mental
surtout,
qui est incroyable.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est que... Donc après, quand tu rentres sur les parcours... bon, là, tu as commencé le golf, on va dire, tu as continué. Puis c'est à haut niveau, c'est 4 jours, quoi.
Ouais, c'est long.
Enfin, c'est voilà. Puis tu as les nuits entre.
C'est enfin, très
vois,
long. Enfin, c'est... Ouais, c'est... Non, moi, j'ai l'habitude, évidemment, mais 4 jours, c'est long.
Sans compter les parcours d'entraînement et de reco avant.
Alors, tu as 2 jours d'entraînement. Oui. Généralement, la semaine, c'est ça. Enfin, tu voyages le lundi, tu t'entraînes mardi, mercredi, et ça commence jeudi à dimanche. Ce qui est dur, c'est bon, la remise en question permanente, mais ça, je dirais dans tout sport. Ce qui est dur, c'est que, bon, il y a des cuts le vendredi soir, comme de partout.
T'en as passé beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, je ne sais plus, j'ai trouvé.
Je crois que c'est 407, non ?
Ouais, ouais, c'est énorme. 400 et quelques, ouais, c'est énorme. Ouais, enfin, c'est le plus.
681.
D'où ton surnom, le métronome.
Oui, très régulier.
Oui.
Oui, effectivement, c'est ce qui a fait ma carrière.
Oui, oui.
Donc, c'est dur sur la remise en question permanente. Qu'est-ce qui peut être. Bah, c'est surtout très mental, en fait.
Oui. Justement, si on parle du mental, toi, tu as travaillé au début, je pense que c'est comme toi, comme moi,
vu,
tu n'étais pas... J'ai
eu une dizaine de préparateurs mentaux.
Oui.
J'ai tout essayé. Bon, dans le golf, tu essayes tout.
Moi, j'ai beaucoup essayé aussi. Bon,
c'est évident, mais...
Dès le début, tes débuts pro.
Alors, j'ai fait partie de ceux... Alors, le golf, quand même, en France, ça reste un sport... c'est nouveau, enfin, de moins en moins, mais quand je suis arrivé, par rapport aux Américains qui étaient bien en avance sur l'Europe à ce niveau-là, en tout cas encore plus sur la France, j'ai fait partie de ceux qui étaient le mieux, je dirais, encadrés, qui arrivaient à se structurer. Venant d'un sport collectif, moi j'ai toujours considéré que je ne pouvais pas jouer sans mon équipe. J'étais seul avec mon cadet, on est deux, donc voilà l'équipe. Mais après, je me suis encadré, bon, manager, préparateur physique, et ensuite préparateur mental. Après, j'ai eu les coachs plus sur le putting. Je me suis toujours encadré parce que seul, je sais pas, ça va être mon côté collectif.
Oui.
Je sais que j'adore jouer.
Oui, mais en fait, on parle souvent, même nous, les sports, on dit qu'on est un sport individuel, mais t'es jamais tout seul en fait.
Ben non,
jamais. Enfin, à part sur ta performance vraiment, nous, entre le portillon de départ et
l'arrivée,
toi devant ta balle en fait, avant chaque coup, t'es seul, mais sinon t'es jamais vraiment seul, puisque comme tu dis, t'as le coach, le cadet.
Le cadet, il a tout le temps, mais effectivement, quand on commence à faire sa routine et qu'on a pris la décision d'y aller, là, t'es seul.
Ouais.
Mais, moi, l'équipe m'a toujours aidé à m'enlever de la pression, en fait. C'est le but de l'équipe. C'est, tu te reposes sur les, entre guillemets, sur les autres pour être à l'aise sur ce que tu as à faire, avoir rien d'autre dans la tête. Moi, ça a toujours été, je dirais, l'objectif principal, c'est d'avoir rien d'autre dans la tête. Mm-hmm. Enfin, c'est là où on est le plus performant.
Oui, oui.
Dès qu'il y a un petit souci, on n'est pas là. Quand la tête n'est pas là, tu n'as pas les résultats qui vont avec. Donc, ouais, toujours une équipe avec moi pour m'enlever toute pression liée à l'extérieur. Ouais, ça, c'est ce que je dis aux jeunes que j'entraîne.
Oui.
Encadrez-vous. Enfin, on est là pour les aider. Enfin, moi, je suis là pour les aider avec... avec Alain, qui est mon coach de tout temps, on a commencé à monter un coaching programme.
Alain
Alberti.
Alberti, qui est sur
Montpellier.
Montpellier, ouais.
Qui était toujours Academy Ledbetter.
Qui s'occupe de Pauline, non?
Oui, Roussin, tout à fait. Ouais. Ouais, qui bosse avec Pauline depuis pas mal d'années maintenant.
Pauline Roussin, voilà, j'étais capitaine de Canterbury.
Ah, d'accord. Incroyable talent. voilà, je crois que. J'étais sur quoi? Pardon,
on était sur le mental et le fait de s'encadrer, d'accompagner l'équipe autour de soi.
Et on est parti des préparateurs mentaux, donc oui. J'en ai vu plusieurs, effectivement. Oui. Et notamment, j'ai bossé avec Guy aussi, à la fin de ma carrière. Avec Guy Forget, parce que j'ai vu tellement de préparateurs mentaux. Et,
oui.
Et j'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé ma voix. Enfin, en tout cas, celui qui pouvait m'aider un max. Et j'en ai discuté beaucoup avec Guy, parce que bon, Guy, en tant que capitaine de Coupe Davis, en tant que, je crois qu'il était numéro 4 mondial de tennis, toutes ses victoires en tournoi, et surtout quelqu'un avec qui on peut parler longtemps. Il adore parler, Guy, et partager, et il habite surtout à 2 km de la maison, on joue beaucoup au golf ensemble. Et on a bossé ensemble un petit peu, il est venu me suivre au Maroc quand on jouait le Trophée Hassan 2. Et on a bossé un petit peu, et c'était, je dois dire que de partager avec des sportifs de niveau, c'est ce qui m'a fait le plus grand bien, mentalement.
Oui, parce que là, c'est direct.
Les psychologues du sport sont pas bons, ils font pas un bon boulot, mais en tout cas, j'ai pas eu le même apport, point. En tout cas, c'est perso.
Ah, oui.
Voilà, et donc partager avec Guy longtemps, souvent plein de dîners. Il m'a vu jouer, performer, et il a vu mon comportement sur le parcours, et donc il a eu pas mal de choses à dire. Et ça m'a bien fait progresser. Alors c'était en fin de carrière, et surtout ça m'a aidé à prendre du recul plus maintenant en tant que coach, et ce qu'il m'a dit et ce qu'il me raconte et toutes les notes qu'il m'a données, j'avoue quand je les relis, effectivement, ce que je raconte maintenant aux jeunes, on se retrouve assez vite.
Ah, oui.
Donc voilà, voilà pour les préparateurs mentaux, et je trouve que les jeunes qui peuvent partager avec des sportifs de haut niveau qui ont vécu ce genre de situation, en tout cas qui sont préparés pour, ça fait quand même gagner du terrain.
Et mon rôle, tu vois, là, c'est aussi pour ça que je fais des podcasts, parce que je me dis, chacun après peut piocher en fonction de ses expériences, quoi, ses retours d'expérience, de vécu.
Bah, moi, je trouve qu'on a après, enfin, j'ai l'impression, et on peut faire gagner du temps aux jeunes.
Oui.
Enfin, t'es d'accord avec moi?
Ah oui, c'est sûr. Non, mais moi, j'ai été beaucoup là-dedans aussi, la préparation mentale. J'ai fait mitose de l'analyse transactionnelle, la PNL. Enfin, j'ai un peu tout testé aussi. Oui, j'ai un peu tout testé aussi. Pour me rendre compte qu'à la fin, c'était juste des outils qu'il fallait que j'aille piocher.
C'est ça.
Quel que soit le... Mais surtout, pour moi, le plus important, c'était d'être en alignement avec mes valeurs et avec ce que j'avais envie de faire et d'être dans le moment présent. C'était vraiment, voilà, pas me projeter après, ni en arrière, c'était vivre le moment présent.
C'est vrai que le moment présent, alors nous, c'est encore plus dur, enfin plus dur.
Oui.
Je dis pas que c'est plus dur que vous, hein, mais ce qui est dur, nous, c'est qu'il y a beaucoup de temps de repos entre les
deux. Oui, c'est ça.
Ouais, et là, il faut rester dans le moment présent.
Ouais. Non, là, il faut jouer avec. Enfin,
t'es obligé de... Enfin, faut pas se projeter de trop, ni dans le futur, ni dans le passé, par rapport au coup que t'as raté ou que t'as réussi. Quand tu joues bien, tu as envie de te projeter devant parce que tu te rapproches de la victoire. Mais si tu es trop, tu as trop d'engouement, tu n'es plus sur ce que tu dois faire, c'est dur.
Oui.
Bon, c'est pareil chez vous dans une course, mais j'imagine quand tu es en tête de la première manche, faut pas se projeter, mais excuse-moi, je pars dernier du truc.
Tu pars dernier, t'entends les temps autour, t'entends les réactions. Voilà. Tout comme toi, à la fin, quand t'arrives dans la dernière partie ou l'avant-dernière partie, tu sais les scores, et tu sais que quand t'es au pote et qu'il te reste à 2 mètres et qu'il faut que tu le rentres pour la gagne, t'as le temps de marcher jusqu'au green, c'est long.
Et cela dit, c'est un peu comme vous au ski, c'est que t'as beau gagner la première manche, t'es en tête.
Oui.
Mais tu peux finir dernier, parce que toi, en plus, tu peux sortir.
Ah oui, oui. Vous aussi, tiens, j'ai l'impression que c'est une vraie relation.
On peut finir dernier.
La faute, vous, le mauvais coup, un mauvais coup peut vraiment te planter quand même.
Enfin, oui, alors tu sors pas comme vous, ou d'un seul coup, tu es disqualifié. Enfin,
oui, mais c'est quand même une importance.
Enfin, tu peux être en tête et finir 50e.
Oui. Ah oui, mais tu vois, la différence de, je réfléchissais, on parlait du foot tout à l'heure, où, bon, bah, tu fais une mauvaise passe, une mauvaise action... Voilà, ça te plante pas tout ton truc.
Pas obligatoirement.
Nous plus, hein, quand même, en golf et en ski.
Ah, nous,
plus.
On se plante tout seul, effectivement, et déjà, t'es seul.
Oui.
Et tu peux faire un jour un dimanche moyen chez nous, et tu finis milieu de tableau. Ouais. Tu marques plus de points. Donc, quand t'es en tête la journée du dimanche, t'as pourtant fait, j'ai envie de dire, les 3/4 du boulot. Mais le dernier quart, si tu le fais pas correctement, tu finis loin. Tu finis pas juste deuxième, quoi. T'es pas en finale à Roland-Garros où au pire tu perds. Mm-hmm. Non, tu finis loin.
Oui.
Tu peux finir très loin. Donc ça, c'est pas fini, quoi. Mais c'est comme vous, ça.
Mm-hmm.
Il faut faire les deux manches, quoi.
Ah oui, ça c'est sûr.
T'es pas obligé de faire la même manche que la première, mais l'engagement, il faut qu'il soit le même.
Quels sont justement tes souvenirs où tu as à la fois quand t'as gagné les tournois, je crois qu'il y en a en Espagne que tu gagnes. Il y a 5 tournois européens que t'as gagné, je crois.
4.
4.
4.
Tu te souviens dans l'état, comment t'as géré ces derniers moments?
Alors, ils ont tous été différents, évidemment, parce que le premier, il est spécial.
Oui.
Il est spécial, mais... alors, si on revient... Oui, j'ai gagné la première fois 2005 à Madrid.
Je savais qu'il y avait l'Espagne dedans.
Oui, j'en ai 2 en Espagne.
Oui, c'est ça.
Ça doit être le jambon. 2005, première victoire. Moi, donc, je suis passé pro, puisqu'on est parti de 89, mm-hmm. mais je suis passé pro décembre 95, donc c'était allé très vite.
C'était rapide, hyper rapide.
Ouais. Enfin, voilà, pour la petite anecdote, c'était allé très vite.
6 ans, ah oui.
6 ans. 6 ans, et il y a eu un... D'ailleurs, je vais revenir juste avant de parler des victoires sur un moment qui marque ma carrière. À chaque fois, on me demande
qu'est-ce qui t'a marqué.
Chaque interview, on dit qu'est-ce qui t'a marqué le plus, les victoires. C'est ainsi un tournant dans une carrière. Et à chaque fois, je dis non, pas du tout les victoires. C'est un super souvenir. Mais ce qui a fait, je pense, qui était le tournant de ma carrière, c'est quand j'ai passé les cartes européennes. Donc les cartes, c'est là où tu te qualifies pour avoir un accès soit sur le Challenge Tour, soit sur le Tour européen. Donc on est en novembre 95, je suis amateur, je décide de passer pro, je m'inscris au pré-qualif des cartes parce que j'ai pas accès directement à la finale. Ça se joue à Saint-Cyprien, c'est sur 3 tours, je fais 2 premiers tours moyens, je crois que je suis +1 départ du 7 du 3e tour. Et la marque pour se qualifier, donc pour la finale, est vers -5, -6. Certains gaps, il reste pas beaucoup de trous parce que départ du 8. Et là, j'enchaîne 8 birdies de suite. Et donc, quand on me pose cette question, quel est le tournant de ma carrière? D'un seul coup, je me retrouve 8 birdies de suite. Je me retrouve donc -7, départ du 16, je crois, ou 15. Oui, départ du 15. Et je suis dedans, ce qui me permet de me qualifier, d'aller à la finale, et ainsi de suite. Et ça déroule. Donc voilà, pour revenir sur, sur ces victoires, je pense que ça, c'était voir le moment le plus important. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je les ai fait. Enfin... Comment ils sont arrivés là? Il y avait un espèce de flow dans mon jeu à ce moment-là, puisque je me rappelle très bien. Je ne jouais pas si bien que ça, mais d'un seul coup, ça s'est tout enchaîné, et j'en ai fait 8 birdies de suite. Et 8 birdies de suite, c'était le record... je crois qu'il y a eu mieux maintenant, mais c'est resté le record mondial pendant quelques temps avec Ballesteros.
Oui.
Et Olazabal, je crois. Deux noms qu'on connaît un
encore
peu.
Des Espagnols, quand même.
Encore des Espagnols. Donc voilà, ça, c'est pour moi le tournant de ma carrière. Et je ne l'explique pas plus que ça.
Oui.
C'était un flow. Oui. Voilà. Donc ensuite, je suis passé pro. J'ai joué 96 sur le Challenge Tour, 97 sur le Tour.
Ah,
et
oui.
Nous voilà, 97, 2005, à la première victoire. Où par chance, j'avais fait 3 premiers tours incroyables. On parle du 4e tour. Où là, j'avais 7 points d'avance au départ du dernier tour. Donc, c'est large.
Oui.
C'est large, mais c'est pas fini.
Mais c'est...
c'est comme, je sais pas, si tu as une seconde et demie
ou
deux secondes.
Ouais,
c'est large, mais c'est pas fini.
Non.
Et après 9 trous, j'ai plus qu'un point d'avance.
9, oui, d'accord.
Il reste encore 9 trous à
jouer. Et c'est toi qui avais mal joué ou c'est les autres qui ont
ouais,
bien joué
moins
c'est
bien.
Les deux, peut-être.
Je jouais moins bien, la pression, le...
Ah bah oui, oui.
Normal. L'autre derrière, qui était Darren Clark, une star du moment, qui joue en équipe de Ryder Cup chaque... enfin, tous les deux ans, lui jouait son niveau plutôt bien. Et là, il était collé à moi. Et là d'un seul coup...
Oui.
Et là, j'ai ressenti la pression... comment je l'ai géré, j'avais pas plus d'infos, ni de, enfin, de, franchement, je l'ai géré comme j'ai pu. Sauf que je me rappelle d'un coup au 11, un par 3 très très dur, ou par, enfin, par chance, non, enfin, j'ai fait un très bon coup au 11, mm-hmm. où je me suis mis donné un coup de fer 5, mm-hmm. lui a fait bogey, et hop, la machine est repartie.
Dans l'autre sens. Ouais.
Et donc, d'un seul coup, j'ai 3 points d'avance, parce que je mm-hmm. prends 2 points.
Oui.
Et là, avec 3 points d'avance, je me remets un petit coussin suffisant pour reprendre confiance. Et c'est incroyable, c'est un trou qui fait hop, basculer la semaine. Enfin, ouais, oui, mm-hmm.
la semaine.
Et ensuite, sûrement la carrière.
Et ta carrière aussi.
Parce que bon, c'est les moments... Et il y a toujours, on voit dans les victoires, on a vu Mathieu, là, Pavon, gagner son premier tournoi sur le PGA Tour. On a vu au 18 qu'il s'est passé un truc dans le rough. Là, il a tenté un coup qui lui a paru faisable, mais... Le cadet, moi que je connais, puisque c'était mon ancien cadet, on sent, et il nous l'a dit pas avant sur notre groupe, il a dit, le cadet, il voulait pas que j'y aille. Il voulait que je me mette sur le côté.
Vous avez un groupe de golfeurs, ouais. De golfeurs français,
du tour,
vous échangez
ouais, du tour.
Ah,
il y a
excellent.
Un groupe par tour.
Ah ouais, ouais. Excellent.
Et donc, sur le. Ouais, il nous a dit, non, Woody, son cadet, donc
oui.
Voilà, recentre-toi,
oui.
On essaye de faire approche-putt, si jamais tu fais, on est bon, sinon. Enfin, on est bon, on va en play-off,
oui.
Sinon.
Oui.
Sinon, on verra bien. Et il a dit non, j'y vais.
C'est un autre truc.
C'est un autre. Il a dit non, j'y vais.
Ouais.
Et toi, c'est des moments comme ça où il ne sait pas pourquoi, il l'a senti.
Oui.
Et
ouais.
C'est passé, il a rentré le putt. Et,
ouais.
Et du coup, on voit où il en est maintenant. Et ça, si tu ne prends pas ces moments-là, en tout cas, si tu n'y vas pas, il ne se passe jamais rien. Donc voilà, c'est des moments comme ça. Moi, ça s'est passé au 11 à Madrid. Ça s'est passé à chaque fois, il y a eu des passages dans les parties, mais bon, ça c'est vrai dans tous les sports,
mm-hmm.
que ce soit collectif ou individuel, il y a des passages où...
Non, mais là, tu vois, ça s'est passé sur un trou, mais
ouais.
J'ai lu aussi que tu avais eu un tournoi où tu vas en play-off.
Ah oui.
Et tu joues pendant 2h15.
Ouais, ça c'est les 9 trous de play-off en 2013 à Valence,
non,
encore
aussi,
en Espagne.
Ça aussi, c'est unique, non? Oui, encore en Espagne. Mais c'est unique aussi ça, 9 trous de play-off.
Oui, c'est le record. Ouais,
voilà,
c'est quelques records.
9 trous de
ouais, 2h et quart de jeu en plus. Sur le même trou en plus, ils auraient pu nous faire changer.
Ah bon ? Sur le même trou ?
Le 18, 9 fois.
Ah oui.
Donc tu finis et tu reprends la voiturette, ils te ramènent.
Bah, dingue !
Et ouais, ça c'est surtout épuisant parce que tu passes par des émotions où tu te sens que t'as le dessus, ah, tu ne concrétises pas.
Oui.
Tu reviens, c'est l'autre qui a le dessus, donc tu t'essayes de te sauver,
oui.
Il ne concrétise pas. On retourne. Donc, tu passes par des émotions, je dirais, positives et négatives toutes les 5 minutes.
Ouais.
Je dirais même sur chaque coup. Mais par contre, j'ai le souvenir de me sentir très à l'aise. Et je me rappelle pourquoi. Parce que pour la première fois, je me suis dit, oh, tu peux au pire finir que deuxième.
Ah, oui.
Pour la première fois.
Comme tu le disais tout à l'heure.
Oui.
Sur des fois, tu es
en finale.
Tu peux faire 30e, quoi.
Tu es en finale.
Ouais.
Un ou deux.
Ouais.
Donc, au pire des cas, bon. La pression, et je sais que je me suis dit ça dès le début. Chaque play-off, je me suis dit ça. Ça n'a pas marché à chaque fois. Mais là, je me suis dit, non, pas grave. Au pire, c'est deux. Donc, je ne sais pas, ça m'a enlevé de la pression. De toute façon, on recherche n'importe quel moyen.
C'est une chose aussi, quand on discute avec des gens d'entreprise et tout ça, je pense que les sportifs aussi, même si on a toujours envie de gagner, on sait que l'échec fait partie de notre parcours, à un moment ou à un autre,
de
perdre effectivement en finale, si t'es, et souvent pour ceux qui sont en duel, ou d'être un peu plus loin, et on l'accepte, parce qu'on sait que le lendemain, ça sera autre chose.
Ouais,
voilà,
et
qu'on doit apprendre de ça. Mmh. Et d'ailleurs, heureusement qu'on apprend beaucoup de nos échecs, parce que sinon, parce qu'on s'en prend des claques hein, quand même. Hein.
On prend plus de claques
ça, c'est sûr,
que de victoires,
oui, voilà.
Ça c'est clair. Donc, c'est 9 trous, c'était épuisant. Bon, ça s'est bien fini, donc pour moi, c'était bien. Hein. Mais ouais, c'est épuisant. C'est juste long.
Oui.
Justement, trop long. 2h15 en plus, sous pression, un contre un. alors qu'on a fait 18 trous pour déjà pour se qualifier dans ce play-off. Mais bon, ça reste un très très bon souvenir.
Oui.
Ben, c'est ma dernière victoire sur le tour,
oui.
D'ailleurs. Voilà, 2013. Voilà. En gros, pour les victoires, après il y a eu quoi, 2007, ouais, 2005-2007 à Shanghai et 2011 en Sicile.
Oui.
Voilà, pour regrouper. Il y a eu 3 victoires sur le Challenge Tour en 97, ce qui m'a permis de grimper sur le tour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ?
Après, j'ai vu aussi, et là on retrouve plus le côté collectif.
Les Coupes du Monde.
Voilà, les Coupes du Monde avec Greg.
Avec Greg, avec Thomas, j'en ai fait, voilà. Je crois que j'en ai fait 9 de Coupes du Monde, 8. J'ai dû en faire une avec Greg Avray, une avec Greg Bourdi, une avec Jean Van de Velde, et toutes les autres avec Thomas. Avec Thomas Levet.
Ah ben là, ça devait
j'en
être...
J'en ai fait, ouais, j'ai 8 ou 9, je pense que c'est 9.
Et toi qui es quand même... Enfin, calme dans ta bulle, quand même, dans ton parcours.
Ouais.
Et Thomas, qui est quand même très, très expressif, qui parle un peu avec tout le monde, etc. Vous vous complétez bien à ce niveau-là ?
Ouais, aucun problème.
Aucun problème.
Aucun problème. On sait...
Parce que Thomas, il est quand même atypique aussi dans le...
Ouais,
dans
moi,
le
je m'adapte bien.
Oui.
Franchement, ça s'est toujours très bien passé avec n'importe lequel.
Oui, oui. Bah, Thomas, il est joyeux en plus. Hein, de
Thomas
façon,
est mais... très joyeux. Oui. Ça, il n'y a aucun souci. Plus d'affinité, c'est avec Greg Avray.
Oui. Oui, j'ai même lu un truc à un moment sur le drive du 18. Greg voulait pas à Shenzhen que Greg voulait pas taper le drive. Il a dit de toute façon tu te débrouilles comme tu veux.
L'histoire elle est incroyable.
C'est ça, hein. Vas-y, vas-y, raconte.
Alors j'ai plus la date. 2007.
Oui, je crois, oui.
Ouais, je crois que c'est ça. Shenzhen, on fait la partie de reconnaissance le mardi. Tournoi commence. Ouais, enfin bref, partie de reconnaissance. J'ai plus le jour. Et on se doit de savoir qui va jouer les paires ou impaires, puisqu'en foursum,
oui.
Paires ou impaires. Et on arrive au départ du 18, Greg me fait hors de question que je joue le départ du 18, donc les paires. Si on se retrouve en position de gagner ou quoi, ou faire un bon résultat, je ne vais pas pouvoir taper ce drive, il me fait trop peur. Je dis bon, donc il faut que j'aille, c'est ça. Je dis donc je joue les paires, il me dit oui, très bien. Et là, bien sûr, on commence la semaine, et puis ça se passe plutôt bien, et bien sûr... On est en tête ex-aequo le dimanche avec les Américains. Ils ouvrent la partie au 1. Et donc, c'est Greg qui part au 1, bien oui. sûr. Et on joue plutôt très bien aussi le dimanche. Et on est à un point derrière les Écossais qui ont fini juste devant nous. Ex-aequo avec les Américains, départ du 18. Et Greg, il me fait... Il n'est même pas venu avec moi, départ du
18. C'est ça, il
n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ah, tu te rappelles de mercredi ou fin mardi ? Je fais, ah, c'est bon, je me débrouille. Et on retrouve d'ailleurs une belle vidéo sur
oui.
Canal+.
Oui.
Où je me lâche un peu parce que effectivement il y avait de la pression.
Je crois que tu lui dis clairement, tiens, saloperie.
Ouais, voire pire.
Ah, j'ai entendu ça sur la vidéo.
On va rester là-dessus.
Voilà.
Mais j'avoue que j'avais de la pression, mais j'étais à l'aise en fait sur le
oui.
coup. Et le fait de jouer en collectif, et on en a parlé beaucoup avec Greg, de jouer à deux, on arrivait à, franchement à jouer mieux que notre niveau cette semaine-là. Notre niveau moyen, là on était au-dessus. Et moi j'arrive à me dépasser dans le collectif, et c'est ce qui est dur. C'est toujours, j'ai trouvé ça le plus dur pour moi dans le golf, c'est ça. C'est qu'il faut à un moment donné se dépasser. Alors il y a eu des semaines où j'ai mieux joué que d'autres, et je me sentais dans ce flow, ce fameux flow des 8 birdies. Mais que j'ai réussi à retrouver rapidement en collectif, donc à deux chez nous.
Au vrai, il y a les règles de
plus facilement. Ouais, mais bon, ça, j'ai pas eu la chance d'en jouer.
Oui, mais tu as été quand même.
CV Trophy.
Voilà. Oui, CV Trophy. Et puis, pour la Ryder Cup en France, avec Greg, justement, vous avez été coach, enfin, référent.
Quoi. Assistant du capitaine.
Ça, c'était un grand moment. Hein.
Des vice-capitaines, c'est clair. Mais c'est vrai que le collectif, c'est. Je sais pas, j'arrivais avec Greg, on s'est complété, fantastique, cette semaine à Shenzhen. Et ouais, c'est l'une des semaines où on jouait le mieux, je trouve. Pourtant, j'ai gagné en jouant moins bien, hein, mais tu sens quand t'es mieux. Alors, on n'a pas gagné, on a fini troisième, mais en tout cas, c'était des... Toutes ces Coupes du Monde, ça a vraiment été des super souvenirs.
Ouais.
Le fait d'être deux, j'aime bien en fait le collectif, ça me manque.
Oui.
C'est le manque que j'ai en moi...
Et pour la préparation de chaque journée de compétition, même si ça a évolué pendant ta carrière, moi, pour avoir accompagné quelques joueuses, des jeunes dames au golf, enfin au championnat d'Europe de, par équipe, il y a une vraie routine quand même. Hein. Vous avez une routine de... Enfin, ça dépend des personnes, mais quand même, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué aussi. Tous les sportifs ont des routines.
Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'au golf, c'est encore plus... alors, on attaque par le petit... Certains hein, attaquent par le putting, ils font tant de coups avec le, après avec le fer 7, le 5,
exactement.
Le 4.
On a tous ça, notre routine.
Oui.
On cherche
toi, tu
avais
une routine vraiment particulière ?
Oui, alors après, il y a... Moi, je commençais par le putting avant oui. de... Enfin, il y a l'échauffement musculaire mm-hmm. qui dure entre 20-30 minutes. Ensuite, je vais putter 10 minutes. Ensuite, je vais faire des approches et du bunker pendant 10 minutes. Ensuite, je vais aller au practice, 30 minutes max.
Oui.
Donc, peu de coups.
Mm-hmm.
Enfin, 30 minutes, c'est 30 minutes, mais je ne tape
oui.
pas beaucoup de coups.
Mm-hmm.
Je prends le temps. Parce qu'en fait, on ne règle rien au practice.
Pas juste avant la compétition.
On est chauffé ouais. physiquement. Quelque part, on pourrait aller, sans... on pourrait aller sur le départ du 1 sans aller au practice.
Oui.
Ce que faisait très bien Sergio Garcia.
D'accord.
Lui, il a passé pas moins d'années à aller faire putting, chipping, départ du 1.
Ouais.
Tapait pas un coup. Enfin, pas un long coup.
Mm-hmm.
Donc, une demi-heure au practice pour vraiment pour le feeling et le tempo. Et ensuite, je repassais 5 minutes sur le putting green avant d'aller jouer, juste pour le filer de la vitesse et départ du 1.
Et ces varie. Moments-là, ça te, tu sens si tu vas être bien dans la journée ou...
Non, j'essaye de ne pas attacher
l'importance. Pas attacher l'importance à ça, bien sûr.
Parce que j'ai des expériences où...
Où tu es super bien et en fait, du coup, tu
es
en
temps
métro.
Mais je ne ratais pas un coup oui. et je la chopais. Mais...
Oui.
Dans le gras, magnifique. Et les parts du 1, n'importe où. Donc, non, j'essaye. Et ce que j'essaye en plus de faire passer comme message aux joueurs que j'entraîne, quoi qu'il se passe, c'est une routine.
Mm.
Tu restes dans ta routine, tu fais ton boulot. En fait, tu fais tes gammes.
Mm-hmm. Tu t'échoues.
Tu joues moins, tu la touches bien, moins bien, laisse tomber. Mm. Fais ta routine, t'es chaud, et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir le départ du 1. Et départ du 1 raté ne veut pas dire que tu ne vas pas faire une belle journée, enfin, mm-hmm. et tout ça. Donc j'ai essayé de rester vraiment en dehors et me détacher de, entre guillemets, du toucher, que j'adore pourtant, hein, mais du toucher, du résultat, de tout ça.
Mm-hmm.
Voilà.
Et tu as des, pendant ta carrière, des joueurs qui t'ont impressionné. Tout à l'heure, tu parlais de Garcia qui, du coup,
ouais.
lui, il fait putting, chip et puis il va directement sur le parcours. Tu as d'autres, parce que j'imagine que Tiger Woods, il a quand même révolutionné
Woods Golf. Hein. Bon, il a impressionné tout le monde.
Oui.
Mais lui, il m'a impressionné parce que j'ai joué avec lui
oui.
une fois en Coupe du Monde, d'ailleurs,
oui.
avec Thomas. Lui, m'a impressionné sur... Bon, déjà, l'aura qu'il avait,
oui.
enfin, qu'il a d'ailleurs, pas qu'il
oui.
avait, là, qu'il a toujours, mais c'était en 2001, donc là, il était 2001 au Japon, en plus au Japon, donc public, énorme de public, on jouait deuxième journée avec eux, avec Duval et Woods.
Oui, ça va.
Et là, il y avait un monde, mais du tee jusqu'au green, pendant 18 trous,
oui.
je sais pas, sur une dizaine de personnes de chaque côté du fairway, mm-hmm. donc ça fait du monde. Et les Japonais en plus, alors là, focus sur Woods
oui.
partout. Et il avait l'air tellement détaché.
D'accord.
De tout ça, de tout ce qui se passait autour. Parce que lui, c'est dur. Hein. Enfin, il a été en plus élevé là-dedans.
Mm-hmm.
Depuis tout jeune, c'est la star qui monte. Et c'est la star qui réussit. Et c'est la star qui a battu tous les records. Et
mm-hmm.
il est toujours là. Et l'impression de l'extérieur que ça donnait, c'est que ça ne l'atteint pas du tout. Ça ne l'émeut
oui.
pas du tout.
D'accord.
Il était. Alors, comment il arrive à se concentrer comme ça, à rester dans son truc, je ne sais pas. Mais bref, ça, c'est ce que j'ai ressenti de l'extérieur. Très focus. Il laisse bien ressortir, en tout cas, le sentiment qu'il veut qu'une chose, c'est écraser.
Oui, dans le regard aussi, dans l'attitude.
Ah, direct.
Ah,
autant,
oui.
il y en a plein d'autres, des stars qui n'ont pas du tout ce regard-là, comme McIlroy.
Oui.
J'ai joué avec lui tout jeune et après... tu sens pas qu'il est là, il va le faire, mais enfin il va le faire, tout le monde veut le faire, mais tu le ressens pas. Woods, clairement, comme pouvait l'être Ballesteros, pareil.
D'accord.
Ouais. Bon, après chacun son
système.
Oui, hein.
oui.
Donc et après il m'a impressionné sur un coup dans la journée, au 2. Moi je mets le drive avec Duval au même endroit sur le fairway, c'est un par 5. Légère montée là comme ça, puis il y avait 250 mètres pour le drapeau. Donc Thomas joue juste avant, il tape un coup de bois 3 à 20 mètres court du green, enfin ou 15 mètres court du green, ce qui correspond à sa distance. Et l'autre d'un seul coup, il a tapé un coup de bois 3, il a pitché après le drapeau. Il a mis un truc à 255 mètres, on est en 2001, en montée. D'un seul coup, là, je fais ouf, ok, on n'est pas dans le même monde quoi.
Oui.
Non, d'un seul coup, on ne fait pas le même sport. Et voilà. C'était l'anecdote sur Woods parce que j'ai joué qu'une partie avec lui, c'était celle-ci. Mm-hmm. Après, je l'ai vu plein de fois.
Oui.
Quand il arrivait dans un tournoi, tous les tournois que j'ai fait avec lui, notamment, je me rappelle à Dubaï, quand il venait du putting green jusqu'au practice, nous on tapait les balles au practice pour s'échauffer. Donc il y a toute la foule. Et tu sais, avant qu'il arrive, qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Il y a de la foule qui bouge, ça fait un bruit, il y a un bruit de fond. Tu dis, ah, c'est bon, il est en train d'arriver. Et 2 minutes après, il arrivait au milieu de la foule. Toi, tu sens qu'il y a.
Ah oui, il y a une électricité dans l'air, il se passe quelque chose.
Parce que Woods bouge, quoi.
Mais en relationnel, il. Ouais. Bon, non, il est dans son monde.
Je ne le connais pas plus que ça, mais non.
Ouais. C'est que nous, il est venu sur le ski. Parce qu'il a eu une relation avec l'INSEE. Voilà. Mais on l'a pas vu.
Je pense qu'en dehors du golf, il pouvait sûrement être sympa. Franchement, sur un parcours.
Non, je ne sais même pas. Parce qu'en fait, quand il est venu avec l'INSEE Vaughan, quand ils étaient en couple, il est venu sur Val d'Isère une fois la voir quand il était à ce moment-là blessé, je pense. Mais je pense qu'il était vachement plus cool parce que, bon, déjà, il était quand même masqué. Il se planquait un petit peu. Mais c'était pas la même ferveur qu'autour de.
Non, dès qu'il met les pieds sur un golf. Bon. C'est logique parce que ça ne va pas être facile non plus à vivre. Mais en tout cas. Le regard et ce qui laisse transpirer dans les vestiaires et tout, il bouge pas son chemin, quoi. Il attend pas pour passer.
Et d'autres joueurs, t'as d'autres joueurs qui t'ont...
Alors qui sont
joueuses d'ailleurs.
Joueuses, on n'a pas la chance nous de partager les tournois ensemble, comme au tennis ou d'autres sports. Nous non.
Ça va venir les tournois mixtes.
Ouais, il y en a un peu, mais franchement, moi j'ai pas eu la chance de faire, donc. On ne connaît pas les joueuses. On ne connaît pas les joueuses. Mm. On se connaît un peu Pauline parce qu'elle entraîne, mais on ne connaît pas les joueuses. Donc, moi, les expériences que j'ai avec, entre guillemets, les stars que j'ai connues, Ballesteros.
Oui.
Ça, c'est pour moi l'un des plus grands golfeurs au monde, effectivement, et européen, que j'ai eu comme capitaine de CV Trophy 3 fois. Et ça, c'était une pression parce que lui aussi, il avait une aura.
Oui.
Quand il se déplaçait, quand il rentrait dans une pièce... dans un golf, on sait qu'il rentre dans la pièce. Et quand il te parle sur un coup autour d'un green, tu écoutais. Ça, c'était franchement top de partager ces 3 CV Trophy avec lui en tant que capitaine. J'ai partagé des parties aussi quand il jouait à la fin. Mais malheureusement, il n'était plus à son niveau et au niveau qu'il voulait être. Donc, il était mentalement touché. Mm-hmm. Pas bien là où il était, pas heureux d'être là. Donc, c'est pas le Ballesteros je pense que les gens ont connu en compétition. Mais en tout cas, moi, en tant que jeune, j'étais ravi de partager les parties et d'apprendre. Et j'ai appris beaucoup avec lui, avec Jiménez notamment, qui sont des gens... c'est des Espagnols avec qui tu peux partager plein de choses, discuter facilement, autour d'un green notamment, parce que petit jeu, c'est leur truc. Jiménez, Olazabal aussi, avec qui j'ai partagé beaucoup.
Tu dis espagnol.
Je sais pas pourquoi.
Et toi alors, ton meilleur coup?
Meilleur coup, c'est difficile.
Ou ton club préféré, ou ton coup préféré?
Bon, mon meilleur coup, j'ai fait une fois un Albatros en tournoi, donc où j'ai rentré un coup de d'hybride sur un par 5 au Qatar. Ouais. Ça, j'ai envie de dire que c'est.
Mais
le
tu l'as
coup.
Même pas vu rentrer du coup?
Si.
Ah si, tu l'as vu quand même.
Était un peu en pente comme ça. J'ai eu la chance de l'avoir rentré de loin à 220 mètres, mais 215, je crois. ça serait le meilleur coup parce qu'effectivement, c'est improbable. 3 en 1 où j'ai gagné une voiture.
Hey.
Ça, c'est. J'ai plus l'année, mais attends. Si, 2001. 2001. D'accord. Munich. BMW. Hey. Voilà, ça, c'est la plus belle voiture de l'année. Donc, j'ai plein de jaloux.
C'était le moment où il fallait le faire.
J'ai fait plein de jaloux. Plus beau, ouais. Quel coup je préfère? Qu'est-ce que je préfère dans le jeu de golf? C'est une bonne question, ça. Quel compartiment du jeu? Je crois que ça a évolué dans ma carrière, surtout. J'ai appris à aimer le putting.
Et tu sais, moi, dans ma carrière, c'est pareil. J'ai appris à aimer les plats.
Les plats. Là où ça descend moins, quoi.
On a vraiment des plats où nous sommes glisse. Et j'étais un petit peu, presque un peu snob en me disant... Et d'ailleurs, je retrouve pour moi mon analogie avec le golf, avec mon petit niveau. Et je me dis, non, mais moi j'aime bien les swings, taper les fers, les drives et tout ça.
Ça correspond quand c'est comme ça.
Voilà,
quoi.
Ça correspond à la technique, les virages et tout ça. Et j'arrive sur les plages, je dis, ouais, non, mais là, en gros, tout le monde peut le faire. Je disais, les luges qui glissaient, moi je dis, moi non, mais non, moi je suis technicienne. Et puis après, je regardais le chrono, je disais, Oui, ok, bon, bah là, tu as gagné 5 dixièmes, mais tu perds une seconde et demie sur le plat.
Donc la position.
Et donc, oui, la position, puis la notion de où tu recherches une sensation de glisse, d'aller vite, de glisser, oui, de glisser, d'avoir du plaisir dans cette. Et même en visualisation, je l'ai travaillé. Pour me réapproprier la visualisation où je suis en position.
C'est pas juste la position ?
Non, c'est les sensations aussi, puis aimer ce que tu. Aimer le plat, quoi, pas attendre le bout du plat. Tu vois. Oui. Et tout comme. Moi, mon analogie, mais à mon petit niveau, en golf, voilà, comme au putting. C'est-à-dire que j'arrive sur le putting, t'as juste à pousser la balle, ça va rentrer dans le... Et non.
Et nous, c'est le plus important.
Et, ben oui, mais nous, c'est pareil, finalement, à la base. À la fin, on a plus de parties de glisse que de parties vraiment techniques, tu vois. Il faut savoir glisser. On n'a pas que des plats.
Mais au ski, il faut savoir glisser.
Et oui, voilà. Donc, il faut accepter aussi de... Voilà.
Bah oui, le putting, donc j'ai appris... Oui. À aimer le petit. Mais vraiment sur la fin.
Oui.
Je l'ai travaillé toute ma vie, hein, mais j'avoue que ça n'a jamais été vraiment mon point fort. Mm-hmm. Et à la fin, en travaillant différemment, en travaillant avec d'autres personnes, effectivement, j'ai appris à aimer le petit, à le considérer autrement, culturellement aussi. Alors voilà, c'est là où. Tu viens pas du golf et que tu viens d'un sport un peu plus dynamique, physique. Et c'est vrai que le putting, ben ça te fait chier au début.
Bah oui, t'as l'impression que tout le monde peut le faire.
Mais sauf que chez nous, c'est pourcentage, c'est grave. Hein. Enfin,
oui, mais ouais. Puis mais c'est bon, il y a beaucoup d'analogies avec le ski.
Quoi. C'est la finition.
Mais beaucoup aussi d'analogies avec le ski parce que un green ou un parcours de compétition de très haut niveau, comme vous faites, c'est comme une piste de nous, c'est glacé quoi.
Oui.
C'est glacé, tu fais pas n'importe quoi. Et nous, quand tu aussi. Par exemple, on joue les pro-ams avant.
Ouais, oui, oui.
Bah, tout d'un coup, on se dit, mais le green, en fait, je pousse la balle. Et bah, je dis n'importe quoi, mais à 3 mètres, bah, en général, moi, je sors de 6 mètres. Tu vois, c'est.
Ah oui, non, c'est super. Enfin, c'est du toucher.
C'est du toucher, de la lecture de ligne. Il y a beaucoup de similitudes.
Et c'est surtout.
Et pourtant, j'arrive pas pareil.
Et c'est la finition, il faut. Enfin, si tu potes pas bien, tu peux pas. Faire de bons scores.
Oui.
C'est clair, c'est net, c'est les statistiques qui parlent. Donc, j'étais plus axé sur le grand jeu en nombre de fairways touchés, nombre de greens mm-hmm. touchés, ça, oui, ça c'était mon point fort, mes points forts.
Mm-hmm.
Voilà. Le petit jeu est venu petit à petit, a fait partie de mes points forts, notamment autour du green et dans le bunker, mais petit à petit. Début de ma carrière, c'était, j'étais reconnu pour toucher beaucoup de fairway, beaucoup de green. Mm-hmm. Et ce qui a fait aussi ma longévité.
Oui, parce que tu passes les cuts.
Je suis toujours là.
Voilà, oui.
Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas performé plus que ça. Mais bon, j'ai gagné.
Oui.
Il y en a qui, malheureusement, ne gagnent jamais. Donc bon, des fois, il faut se contenter de ce qu'on fait, même
oui.
on a toujours envie d'être
de faire mieux,
meilleur. Mais voilà, je crois que ce que je dis, en tout cas, mais... Enfin, aux jeunes que j'entraîne, et d'ailleurs les moins jeunes, on a tous un niveau intrinsèque qu'on peut pousser au max, et ça nous donne un classement. Mais on est tous différents. Donc, on a tous envie d'être numéro un mondial, évidemment, mais on n'a pas tous les capacités, que ce soit physique ou mentale, d'y arriver. Par contre, on a un niveau qu'on peut faire améliorer, et je trouve que ça, c'est le principal.
Mm-hmm.
Si tu arrives à faire évoluer ton niveau et que tu progresses, on voit où ça te mène.
Oui.
Voilà, tu auras un classement parce que mm-hmm. tu as fait tant. Enfin, ta descente à tant de secondes, mm-hmm. tu as fait tant de moyenne de score. Tu es 50e mondial, tu es 100, tu es 10. Mais c'est toi parce que tu as fait progresser. Je trouve que ça, c'est le principal pour moi et c'est le discours que je donne à mes joueurs.
Donc, alors aujourd'hui, du coup, tu coaches ?
Je coach et je joue encore.
Mais tu joues encore, j'essaie justement, j'allais y arriver puisque tu veux aller aussi jouer sur le senior tour, c'est ça ?
Alors, j'aurai 50 ans au mois de
mai. Faut attendre le mois de mai, voilà, c'est ça.
Là, je n'ai pas le droit de jouer en tant que senior. Donc, à partir du 8 mai, je pourrais m'inscrire sur un tournoi senior. J'ai eu le droit d'aller aux cartes du Champions Tour, donc aux États-Unis, mm-hmm. en décembre là, mm-hmm. 2023, parce que je vais avoir 50 ans avant le juin mm-hmm. 2024.
Avant le début de...
Voilà, pour le règlement, que j'ai raté... En play-off.
En play-off, oui, j'ai lu ça.
D'une place, enfin, ouais, oui. En play-off, on était 3 pour une place. Bon, il y avait 5 places. Donc, c'était dur sur le moment parce
oui.
qu'effectivement, c'est le circuit phare chez les seniors. Ça se passe mm-hmm. là-bas. On commence à avoir un circuit en Europe qui s'appelle le Legends Tour qui commence à bouger, mais bon, il n'y a pas beaucoup de tournois. Donc, il va me laisser le temps de coacher aussi. Donc, ce qui est pas mal. Mais bon, je rêve d'aller jouer aux États-Unis parce qu'en fait, je n'avais pas joué depuis quelques mois. J'irai en tournoi. Je me suis repréparé un petit peu. À mon goût, pas assez. Mm-hmm. Parce que j'étais entre le coaching et tout.
Oui.
Voilà, c'était comme ça. Mais je suis allé voir ce qui se passait. Le niveau, je m'attendais à rien. J'avais aucune idée puisque d'un seul coup, je connais pas les joueurs. J'en connaissais quelques-uns, mais contrairement à toutes les saisons que j'avais sur le tour, tu sais où te placer, tu sais ce que tu vaux. Enfin, tu as vraiment une idée. Là, je partais à l'inconnu. Je suis allé avec Fanny, qui m'a calié.
Fanny, ta femme.
Ma femme, pardon, qui m'a calié. On a passé un excellent moment. Et c'est avec le peu de préparation que j'ai eu, j'ai scoré correctement et je suis arrivé en play-off.
Hey.
Et donc, j'aurais pu l'avoir, c'est pareil. Donc, par contre, je sais à quoi m'en tenir pour les prochaines, puisque c'est au même endroit, même date, et chaque année, plus ou moins le même score pour se qualifier.
Ouais.
Donc, là, je sais
à quoi m'en tenir. Tu sais ce que tu vas mettre en place.
Et je sais ce qu'il faut faire comme score. Il faut faire moins 15 sur 4 tours sur ce parcours. Mm-hmm. Les conditions sont généralement les mêmes. En Arizona, à Scottsdale, c'est toujours pareil. Donc, voilà. Ça sera plus fin. Donc, dans mon cas, ça sera plus facile.
Oui.
Mais en tout cas, c'était bien de se rendre compte que, voilà, même sans trop de préparation, le niveau est encore là. En tout cas, le niveau qu'il faut pour jouer là-bas. Voilà, à partir de mai cette année, je vais jouer sur le Legends Tour.
D'accord.
Donc, je vais faire peut-être une dizaine de tournois, je pense.
Ah oui, tu dis qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même 10, c'est quand même.
Ouais, je vais en jouer un peu.
Oui.
Enfin, je vais
voir. C'est en Europe, ça.
C'est en Europe. Mm-hmm. Je peux rentrer sur le British Open Senior.
D'accord.
Donc ça aussi, ça peut être des passerelles pour jouer sur le Champions Tour, si j'arrive à me faufiler en faisant les bons résultats. J'attends une invitation pour l'USPGA Senior, qui est fin mai.
D'accord.
Donc là, il faut que je me remette au boulot. mais voilà, donc il y a des passerelles. Non, je suis ravi de continuer à jouer. En fait, c'est ça que je voulais dire. Je suis parti m'entraîner un petit peu là-bas, sur place. Et en fait, je passais la journée au golf. Au practice. D'ailleurs, j'ai ressenti tout de suite, j'avais envie de repasser des heures à chipper au practice. Les conditions, en plus, aux États-Unis, elles sont incroyables d'entraînement. J'étais bien.
Oui.
J'étais bien, en fait. Là où j'étais, j'étais bien. On a passé 3 semaines où j'ai fait tous les jours ce que je faisais pendant 26 ans de carrière. Ben, en fait, j'étais bien. Ça, je dois dire que ça ne me manquait pas les 6 derniers mois, ça ne m'a pas manqué plus que ça.
Ouais.
Mais je suis retourné, j'étais quand même bien.
Finalement, parce que coach, c'est aussi un autre positionnement. Tu es beaucoup plus dans. Bah forcément, hein, tu regardes, tu conseilles. Et moi, par exemple, je me dis, je ne suis pas coach de ski.
Oui.
Quoi. Et j'aurais du mal parce que je trouve qu'il y a beaucoup de moments de. Moi, j'ai du mal à être passive, en fait. Enfin, passive, entre guillemets. Passive en étant en regardant, en donnant des conseils. Mais t'as quand même beaucoup, c'est beaucoup plus passif.
Ah, c'est long.
C'est long.
Je peux le dire, c'est long,
c'est
les gars. sur le terrain, c'est long.
Oui.
Parce qu'en plus, moi, avec Alain est plus responsable du côté technique. Mm-hmm. Parce que c'est un vrai technicien. On bosse ensemble depuis plus de 20 ans.
Oui.
Donc, lui, il connaît vraiment la technique. Moi, je connais la technique, mais j'ai envie de dire ma technique. J'apprends maintenant à connaître un peu la technique des autres et à me faire à ça. Mais mon rôle, c'est justement d'aider les joueurs à amener la technique qu'ils travaillent au practice sur le terrain. Parce que quand même, à la base, le but, c'est d'aller sur le terrain.
C'est
de faire un score. Et les gars, c'est là où c'est le plus dur en tant que joueur. C'est que moi, je l'ai vécu. C'est que tu bosses des heures et des heures au practice et d'un seul coup, il faut amener ça sur le terrain. Et là, il y a l'eau à gauche. Le vent, les arbres... Qu'est-ce que t'amènes en fait? Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu bosses et qu'est-ce que tu es capable d'amener? Donc ça, c'est mon rôle. Et donc, moi, tout ça pour dire que je passe du temps avec eux sur le terrain. Il faut que j'aille les voir jouer. Donc, je suis.
Oui.
Donc, c'est là que c'est long.
Oui.
Et là, je les suis et je les vois taper des coups. Et après, je fais le débrief pour savoir ce qu'ils ont pu emmener et ce qu'ils ne peuvent pas emmener, comment ils se sentent. Enfin, c'est là où c'est très psychologique. D'ailleurs, Fanny m'aide beaucoup parce que comme elle est coach en neurosciences, j'apprends aussi, parce que c'est quand même nouveau le cerveau. Ça, je pense que de connaître un peu plus comment notre cerveau fonctionne, scientifiquement, parce que maintenant, il y a eu des retours dessus, il y a un vrai feedback, ça m'aurait aidé.
Bien sûr.
Parce que quand j'en
parlais... C'est une question que j'allais poser, parce qu'on arrive à la fin de podcast, mais qu'est-ce que tu regrettes, finalement? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment?
Le côté mental, ça n'a pas été mon fort non plus.
Ouais.
Mais par, brave, par éducation, par, je sais pas.
Ouais.
Par, ouais, par.
Mais à l'époque,
je pense par éducation.
Le côté mental, c'était associé très vite à, il est faible.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est pas il est faible, c'est ça fait partie de la préparation. C'est le champion qui gagne, c'est le champion qui est fort mentalement.
Ouais. Oui.
Ouais, c'est pas qu'il se soit fait aider ou pas. Mais
oui, c'est clair. Voilà. Non, mais c'est clair. Maintenant, je me rends compte de toute façon. En plus, en tant que coach, je me rends compte bien plus maintenant que tu peux pas passer à côté d'une préparation mentale, en tout cas d'être bien, comme tu dis, dans l'alignement avec qui tu es, où tu es, et ce que tu veux en faire. Ça, c'est la base pour performer. Et tu peux pas passer à travers. T'as beau être le meilleur au practice, le meilleur dans tous les compartiments, si sur le parcours, t'es pas bien dans ta tête, aucune chance. Et comme tu dis, les meilleurs champions, c'est les plus forts dans la tête. Et Woods, le premier. Oui. Et Djokovic, le premier. Oui. Enfin, Nadal, enfin, des exemples, on en a plein. Donc, je pense que là, effectivement, dû à une culture golf en France qui était récente, plein de choses, je crois que c'est... Et encore, j'ai aucun regret. Hein. Mais si tu me poses la question, ouais, je pense que j'aurais pu être bien meilleur mentalement, et notamment avec ce côté... J'aime bien le côté scientifique, très cartésien. Les stats, les chiffres, de comprendre comment le cerveau fonctionne, qui m'explique un petit peu pourquoi j'ai ces réactions-là, ça m'aurait aidé. En tout cas, ça m'aurait aidé beaucoup plus. Voilà. C'était trop abstrait, en fait.
Oui.
Le côté mental, encore, quand j'ai travaillé. Alors que là, maintenant, je dis, mais oui, en fait, c'est évident.
Surtout avec Fanny, si elle est là.
Comme tu dis, on est plus vieux. Plus
oui.
T'as un recul différent. Voilà, puis, effectivement, les neurosciences, c'est récent, c'est 10 ans. Aux États-Unis, ça en avait déjà, ils travaillaient dessus, mais bon. Donc voilà, je crois que le côté mental, oui, plus que tout chez moi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est à mon avis, c'est pour tous les athlètes. C'est tellement, à moins d'avoir un mental inné fort.
Oui, mais quoi qu'il en soit,
à un moment donné,
il se travaille. Hein.
T'as toujours un doute, des doutes qui arrivent. Oui. Mais effectivement, les meilleurs, bizarrement, ils sont meilleurs là-dedans quand même.
Ouais, ils savent, voilà,
ils le gèrent mieux.
Rentrer le putt qu'il faut quand ça compte vraiment. Le deuxième jour, oui, mais surtout le quatrième jour.
Ouais,
sur le 18.
Ils sont meilleurs. Alors, est-ce qu'ils sont mieux préparés ou pas? Je sais pas. Je pense qu'il y a une part quand même de naturel, malgré tout. Ouais. Je pense.
Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu me parlais de Tiger Woods, le fait qu'il était un peu détaché, j'ai fait un podcast avec Arsène Wenger.
Ouais.
Et il me disait que, quelque part, pour lui, alors il parlait des footballeurs, les meilleurs footballeurs type Messi et autres, à un moment, ils ont un côté autiste. Tellement ils sont impliqués dans leur truc et détachés de la... Il dit que tu imagines quand tu poses le ballon sur le penalty, sur le point de pénalty, sur la finale de la Coupe du Monde, et que tu as des milliards de téléspectateurs... Et il dit, en fait, il y a ce côté, alors on dit autiste, comme on pourrait dire, hyper concentré, hyper, je ne sais pas. Mais il dit, il y a ce côté quand même, voilà, de mental, effectivement. On pourrait appeler ça du mental ou
ouais, mais bon,
ou dissociation mentale, quoi. Il
faut faire abstraction du reste.
Hein. Voilà.
Il faut être là. Et puis, je ne sais pas comment ils font. Enfin, moi, j'ai joué au foot, mais petit. Hein. Mais c'est vrai qu'on avait toujours le pénalty.
Oui.
Même petit, j'avais une pression énorme. Tu as toute l'équipe, j'ai jamais été dernier, tu es cinquième.
Oui.
Ouais. Ouais, alors après, moi, je sais qu'au golf, tous les coups plus importants que les autres, donc sur la fin, moi, j'ai toujours eu l'image de tirer le rideau. Mais vraiment tirer le rideau comme si tu étais dans les box de practice fermées. Ouais.
Hein. T'as bulle, quoi. Une bulle. T'es une
tu
bulle.
Tires le rideau devant.
Oui.
Et en fait, après, je suis sur mon... Moi, je me visualisais sur mon tapis vert de practice où t'as appris à taper. Et en fait, il n'y a plus rien là-bas.
Ouais. T'as plus de son non plus? Ou c'est flou, quoi, c'est
ouais,
loin.
C'est très flou, mais en tout cas, j'ai plus de... Là où je vise, en fait, j'ai assuré que je visais bien.
Oui.
Mais après, j'ai vraiment le... Je tire le rideau et je suis sur moi, sur mon corps.
Dans le
sur
moment
le
présent.
Sur le mouvement.
On revient au moment présent, vraiment. Au
mais
geste
sur le
et au
mouvement.
Moment.
Il y en a qui ont besoin de visualiser plus la trajectoire.
Oui.
Moi, je m'enlève vraiment ce qu'il y a là-bas. Parce que ça met de la pression.
Ouais. Ouais, je suis d'accord, parce que nous, par exemple, en ski, je disais... Il faut être sur le moment, sur le geste que tu vas faire, la sensation d'accélération, plutôt que de te projeter sur le résultat. C'est-à-dire, imagine le temps, tu sais à peu près le temps qu'il faut que tu fasses pour gagner en descente.
J'imagine, vous savez.
Et en fait, si tu te projettes sur le résultat, pour moi, tu es décalé. Tu es déjà à après. Alors qu'en fait, il faut être... Enfin, nous, quand ça se joue à des dixièmes de seconde, mais vous, c'est aussi des dixièmes de seconde, le départ du swing avec le degré.
Ah bah, si ça arrive pas...
Eh bien, c'est moi pour moi c'est enfin moi, en tout cas dans mes mots c'est le moment quoi, vraiment d'être dans le moment.
Ouais. Et ouais, pas bon, dans moi le c'est ce que j'essayais de faire. Ouais. Dès que je sentais la pression monter un peu trop ou je pouvais pas vraiment discuter soit avec le cadet ou toi faire tout ça ou quand c'est trop, je tire le rideau et en fait je faisais mon swing de practice.
D'accord.
Comme si j'étais ouais. en train de m'entraîner, peinard. Bon, à mon avis, Messi est sur son pénalty. Ils ont des, oui. ces images-là.
Oui, certainement.
Tu ne peux pas avoir le Maracana.
Le bruit, les sifflets, ouais. les... ça c'est...
Bah après, chacun, justement, c'est, chacun trouve c'est ses ce solutions. Hein.
Ah oui, complètement.
Mm-hmm. Mais c'est ce que je cherche avec les jeunes. Oui. Donc, il y en a un qui n'arrive pas à tirer le rideau.
Non. Non, puis ça sera toujours leur personnalité.
Donc, il faut trouver ton, ton moyen.
Oui. C'est clair. Bon, on arrive déjà à la fin du podcast. En plus, oh, on a déjà dépassé le temps. Oh, t'es bavard, c'est pas possible. Alors, pour finir, j'ai trois mêmes questions qui reviennent tout le temps. Est-ce que t'as une devise dans la vie ? T'es pas obligé d'en avoir une. Hein.
Mais... Non, je pense pas. Non.
Non. Non. Voilà.
Non, non, j'en ai pas.
T'en as pas. Alors, je vais te dire des. Non, non, mais c'est pas un problème.
Bonne réponse.
Bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes, hein. Comme toutes les préparations sont bonnes. Je vais te dire des mots. Il faudrait que tu, par association d'idées, tu me dises à quoi ça te fait penser, un mot ou plus.
Ouais, tu peux faire une
voilà.
petite phrase. Ou
voilà, oui. Je suis large, hein, je suis facile. Golf.
Oh. C'est ma passion, oui, évidemment. Et j'ai envie de dire que c'est ma vie, mais. Mais je suis pas un golfeur. Ça suffit ou ah, tu veux bah, qu'on développe
non je trouve ça bien de laisser ça comme ça tu vois parce que chacun
je suis un sportif ouais,
enfin,
je,
mais, je pense qu'on aura compris dans, avec toute la discussion donc du coup bah, foot
bah oui c'est, bah, c'est foot c'est, c'était mon rêve
oui.
c'était mon rêve de, d'enfant mais sans aucun regret parce que je pense qu'avec la qualité de mes genoux je n'aurais pas été très loin
ouais. JO du coup, puisque le golf est revenu au jeu, c'est un regret que...
Ah oui.
Oui.
Ah
quand t'aurais adoré.
Ah oui, moi,
avec
fan.
Tous les autres sportifs.
Moi, je regarde, les... enfin, bien sûr, oui. je regarde depuis tout le temps, mais ah oui, non. Fan, oui, regret, regret.
Oui.
Oui, regret.
Regret, oui. Et ouais. Paris 2024, là, qui s'approche.
Ben oui, il faudrait que je vais venir voir, je ne sais pas quand, parce que ça tombe pendant le British Open Senior. Ah. Mais bon... Ça dure quand même quelques semaines, les JO. Ouais.
Mais par exemple, au jeu de Paris
2024, pas aller voir
golf. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. T'iras pas forcément voir le golf.
Non.
T'iras voir quoi.
Qu'est-ce
si
que
tu j'ai... peux. Si t'as,
natation.
Tous les billets sont ouverts.
Je vais essayer d'avoir. Enfin, je vais essayer, oui, ouais, parce que c'est pas facile. Natation. Escrime.
Oui.
Judo. Enfin,
tout ce que tu veux. Hein.
Bon, l'athlète, j'adore, mais ça va être, c'est super compliqué de rentrer. Ouais. Mais. Ouais, c'est. Bon, c'est l'athlète 100 mètres évidemment mais bon oui. je le regarderai sûrement à la télé mais je trouve que ouais tout ce qui est judo natation escrime j'adore je suis fan handball alors sport co attention
ouais ah bah oui en plus on a des équipes fabuleuses donc
handball mais...
attention on dit handball
pardon volleyball
non on dit volleyball. Non volleyball on dit volleyball handball c'est parce que c'est allemand
exact juste
ah oui
ouais alors, je vais te dire tous les sports en fait.
Oui, tu peux.
C'est pas drôle. Non, je suis fan. Les JO, oui. Je suis fan. C'est oui. tout.
Green.
Green. Bah, ça n'a pas été mon point fort, le green. Mais j'avoue que j'aime bien être sur le green maintenant.
Oui.
Et enseigner même sur le green.
D'accord.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Présent.
C'est important de rester dans le présent.
Et à venir.
Et à venir, j'espère États-Unis sur le Champions Tour. Alors là, ça va créer une logistique différente dans oui. la famille, mais on s'adaptera.
Ouais.
Voilà.
C'est sûr.
Voilà, l'avenir, il est simple. Ou coacher. Je savais pas si ça allait me plaire. J'avoue. Mm-hmm. Quand j'ai commencé avec Alain, j'ai dit bon, on va voir. Et en fait, je me régale.
Ah, c'est cool. Ouais, t'es dans le partage, donc c'est voilà. normal. Et alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace ?
Ah, c'est le ski.
Ah, comme tu veux.
Ah, moi, c'est le ski.
Toi, c'est le ski. Oui, ouais, c'est bien.
Une belle trace, c'est le ski parce que j'ai du mal à faire des belles traces. Ouais, je sais pas, ça me fait penser au ski.
Ouais.
Ouais, ça me fait penser en tant que fan de rando, une belle trace dans la poudreuse que tu as faite il n'y a pas longtemps que j'ai vu passer. Ouais, pour moi, c'est ça.
Ouais.
Ouais, c'est un grand champ de poudreuse avec... une très belle trace. Voilà à quoi ça me fait penser.
Merci Raph.
Merci Flo.